Pourquoi vivre en couleur? Nous vivons dans les couleurs, toujours, partout. Alors pourquoi ne pas en faire un outil plutôt que de les subir sans savoir? Et pour faire des couleurs un outil, nous voici avec Béatrice Vial-Collet, peintre, qui va nous faire profiter de ses connaissances et de son expérience. Comprendre et connaître la couleur, tel est notre objectif.
Bonjour, bonjour, oui, il s'agit de vivre en couleur, profiter de leurs caractéristiques, de toutes leurs qualités, et pour ça il faut quand même un petit peu les comprendre et connaître ces couleurs, parce que ce qu'il faut réaliser c'est que la couleur a un véritable impact psychologique sur nous. C'est un phénomène qui est perceptif, culturel et en même temps individuel. C'est un fait de société, d'abord parce que toute société est régie par un code non écrit des couleurs. Ces couleurs nous influencent, elles nous conditionnent dans tous les domaines, on le voit, en art, dans la décoration, dans la publicité. Prenons l'exemple des vêtements. La société suscite une mode qui, chez nous, traditionnellement, privilégie par exemple le noir pour les soirées habillées. Et on le voit, elle évolue cette mode. Aujourd'hui, on va plutôt vers des couleurs vives et la mode change et nos goûts en même temps changent. C'est que la société donne à la couleur un sens, un véritable usage. Preuve en est que les préférences de ces couleurs varient d'un pays à l'autre. Par exemple, au Japon, le rouge vient en tête devant le noir et le blanc. Par contre, en Chine et en Inde, c'est le jaune, alors que chez nous, on n'aime pas trop le jaune. En islam, c'est le vert devant le blanc et le noir. Et chez nous, en Occident, on préfère le bleu. Donc, vous voyez que l'importance de chaque couleur varie non seulement d'un pays à l'autre, mais aussi d'une époque à l'autre. Et on va en donner trois exemples. À la préhistoire, c'est les ocres qu'on a le plus utilisés, parce que tout simplement, l'homme préhistorique avait à sa disposition des argiles. Il suffisait qu'il se baisse, qu'il gratte la terre. Et c'est donc avec les ocres qu'il a commencé par se peindre le corps d'abord, puis qu'il a réalisé ses premières peintures murales avec ces mêmes argiles, en jaune, en rouge, en brun et en noir. Parce que, bien sûr, l'intérêt d'un pays pour telle ou telle couleur dépend de la maîtrise qu'il a des pigments à une époque donnée. Par exemple, le rouge, ensuite, qui faisait partie de ces argiles, eh bien, ce rouge va être la couleur par excellence pendant très très longtemps, jusqu'au Moyen-Âge. Dans l'Antiquité méditerranéenne, parler de couleur rouge, en fait, c'est presque un pléonasme. Colorer, ça voulait tout simplement dire teindre en rouge.
Alors, ce que vous venez de dire, Béatrice, m'évoque un très beau tableau, La Vierge aux chanoines, du peintre flamand Van Eyck. Alors cette Vierge, assez curieusement, elle est vêtue d'un immense manteau rouge, somptueux d'ailleurs, doublé de vert. Et ça illustre tout à fait ce que vous dites, puisque les Flamands, c'est vraiment le Moyen-Âge, c'est la période de leur apogée. Et c'est un tableau magnifique qui rayonne.
Oui, oui, alors c'est tout à fait vrai. Et justement, Fabienne Verdier, qui est un peintre qui s'est, dans un premier temps, justement, beaucoup intéressé plutôt au noir et blanc, qui a beaucoup travaillé les encres, est venue à la couleur. Et pour résumer ce tableau, elle fait des expositions en ce moment, eh bien, elle l'a résumé en trois coups de brosse rouges sur un fond vert, parce que la robe de la Sainte Vierge était rouge doublée de vert. Et ça soulignait bien sûr l'importance du rouge de la robe. Et cette robe ne deviendra bleue que plus tard. Parce que de la même façon, le bleu ne sera pas toujours présent. C'est assez amusant de constater qu'en Grèce, par exemple, le mot bleu, il n'existait pas. Il n'y avait aucun mot qui désignait la mer. Vous allez me dire comment elle était. Elle était verte ou elle était brune. La plupart des langues la désignaient en évoquant la pâleur ou l'obscurité. Il a fallu attendre le XIIe siècle à peu près pour que le bleu soit valorisé, parce que la lumière est devenue bleue, donc divine. Et alors la Sainte Vierge va avoir en effet une robe bleue. Alors, vous voyez que cette couleur, ça vient de l'usage qu'en donne la société, mais ça vient aussi de nous. C'est-à-dire que c'est un phénomène perceptif individuel, parce que ce ressenti que nous avons, il vient de plusieurs choses. Il vient tout d'abord de notre personnalité, tout simplement. C'est-à-dire qu'un tempérament vif et gai va apprécier sans doute les jaunes, les oranges, les rouges vermillons, des couleurs un petit peu vives comme ça, alors que quelqu'un de calme, très intériorisé, il va plutôt ressentir ces couleurs comme une agression.
Ah, ça, vous me faites penser, c'est une incidente, hein. Vous me faites penser à ma grand-mère qui sursautait chaque fois qu'on s'habillait en vert. Et elle disait, sous le vert, la beauté tremble. Je ne sais pas pourquoi elle disait ça. Elle disait aussi, vert et bleu et truffidetu, ce qui veut dire en langue d'ossien, vert et bleu et je me moque de toi. Elle ne devait pas aimer les couleurs froides.
Ah oui, c'est trop mignon ça. Oui, oui, parce que là, il y a un deuxième argument dont on doit tenir compte, c'est que le ressenti qu'on peut avoir d'une couleur vient de notre vécu personnel, c'est-à-dire de notre environnement, des souvenirs qu'on peut avoir. Elle nous parle de tout ça, la couleur. Par exemple, le témoin d'un accident de voiture qui aura souffert de voir beaucoup de sang répandu, bah, peut-être que du coup, il ne va plus du tout aimer le rouge. Et puis l'infirmière, elle, qui travaille dans le blanc toute la journée, j'imagine que le soir, elle n'aura pas trop envie de blanc. Et puis, il y a autre chose qui joue pour ce ressenti qu'on peut avoir, c'est quand même la connaissance que chacun a de la couleur elle-même, c'est-à-dire quels sont les pigments, comment s'articulent les couleurs primaires et secondaires, le spectre lumineux. Par exemple, dans le cercle chromatique, la qualification des couleurs chaudes et froides va évoluer dans le temps. Les sociétés médiévales, elles considéraient le bleu comme une couleur chaude, parce que pour elles, c'était la couleur qui était associée à l'air. À l'époque, l'eau était pensée verte, la terre noire et le feu rouge. Voilà. Donc, notre sensibilité à la vibration de la couleur, ça joue aussi beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose qui est quand même la plus importante, c'est que la couleur nous vient du soleil. C'est une vibration, c'est une onde lumineuse qui vibre comme toutes les autres ondes électromagnétiques.
Alors, vous me faites penser à la musique, qui est aussi une onde vibratoire. Et qui a un peu le même caractère, c'est-à-dire mystérieux en fait. Vous dites vibration qui vient du soleil. En ce qui concerne la musique, c'est une vibration qui vient de je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai que ça fait penser. La musique et la couleur ont quelque chose à voir en termes de définition quand vous dites vibration.
Oui, alors ces vibrations, c'est Moslav Moucha qui dit « La peinture est une poésie muette, la musique une peinture invisible ». Oui, tout ça, ce sont finalement des vibrations colorées ou musicales. Elles se ressentent peut-être mieux dans le silence. En tout cas, cette action vibratoire de la couleur, elle est utilisée notamment par la chromothérapie comme source de bien-être ou d'équilibre. Elle établit des correspondances entre chaque couleur et chaque partie du corps. Alors, elle n'emporte pas forcément tous les suffrages, par contre, on est bien tous d'accord que la détente joue pour beaucoup dans la lumière colorée. Les progrès de la technologie ont permis aujourd'hui de l'utiliser beaucoup pour profiter de son impact psychologique, justement. Et dans les spas, les baignoires, les salons d'esthétique ou de massage, on change la couleur pour à chaque fois obtenir des ambiances colorées différentes. Vous savez que certains considèrent qu'à l'extrémité chaude du spectre lumineux, les rayons sont plus physiques et reflètent la façon dont on s'exprime, alors qu'à l'extrémité froide, bleue, les rayons sont plus psychologiques et reflètent notre intérieur.
Alors cette harmonie des couleurs que nous retrouvons dans l'arc-en-ciel, c'est quand même quelque chose de permanent. C'est toujours dans le même ordre.
Oui, oui, oui. En ce moment, on parle de l'impact psychologique. On va peut-être en sortir parce que ce n'est qu'une façon d'explorer cet univers de la couleur. Il existe beaucoup de portes d'entrée, hein, symboliques, sensibles, techniques, artistiques, physiques. Je vais vous dire, quand j'ai commencé à étudier la couleur, je ne savais pas par quel bout la prendre. Et quelque chose m'interpellait, c'est que quelle que soit l'époque ou la démarche, pour le néophyte, les couleurs apparaissent toujours dans le même ordre. L'arc-en-ciel, comme vous dites, déploie dans le ciel toutes les couleurs, du rouge côté terre jusqu'au bleu vers le ciel et le bleu-violet plus haut encore. Le yoga, lui, situe les chakras dans ce même ordre de couleurs dans notre corps. Le rouge pour le chakra racine du coccyx jusqu'au chakra bleu du front et le bleu-violet sur le crâne. Quant au cercle chromatique, les couleurs se suivent toujours dans ce même ordre du rouge vers les bleus. Bon, on peut répondre que sans doute l'ordre des couleurs des chakras a pour modèle celui de l'arc-en-ciel et que l'homme a pris exemple sur la nature, tout simplement avec la terre rouge en bas, le vert au milieu de la végétation et puis en haut le ciel bleu. Eh bien, la connaissance de l'univers physique va donner une réalité à cet ordre immuable des couleurs. Parce qu'il faut quand même appréhender cet univers physique, c'est-à-dire voir la différence entre les couleurs lumière qui nous viennent du ciel et puis les couleurs matière qui nous entourent. Parce que les couleurs lumière qui nous viennent du ciel, si on les ajoute, elles nous donnent le blanc. C'est ce qu'on appelle la synthèse par addition. Quand la lumière solaire blanche se diffracte, les couleurs apparaissent. Dans le champ électromagnétique qui nous entoure, c'est une toute petite partie qui est rendue visible. Quand ces rayons du soleil éclairent un prisme, c'est-à-dire les gouttes de pluie ou de rosée, les bulles de savon, un diamant, tout cela se comporte comme des prismes et provoque la décomposition de la lumière en une infinité de couleurs, qu'on réduit par commodité à 6 couleurs principales, c'est-à-dire le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet.
Alors ces magnifiques descriptions que vous nous donnez et qui sont scientifiques mais en même temps très poétiques me font penser à l'arc-en-ciel dans la Bible. Et dans la Bible, il joue un rôle tout à fait symbolique. Tout à fait après le déluge, Dieu intervient et dit « Voici le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand je ferai apparaître des nuages et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants. »
RCF, un programme aux couleurs de la vie.
Donc l'arc-en-ciel est devenu, dans la Bible, l'image de l'alliance avec Dieu. Et tout ceci se rejoint d'une certaine manière, vos explications très techniques et scientifiques et l'explication symbolique de la Bible finalement montre l'importance de cette décomposition de la lumière que vous nous avez si bien décrite.
Oui, c'est vrai que c'est quand même très agréable de mettre un peu de poésie dans ces explications un peu techniques. Et c'est vrai que l'arc-en-ciel, c'est le symbole du pardon de Dieu après le déluge. C'est aussi le voile flottant d'Iris, déesse ailée, messagère de Dieu, qu'elle emprunte pour descendre du ciel chez les humains. Mais c'est très très joli sous ça. Alors, pour revenir à des choses plus pratiques, comment ça s'est passé dans les fêtes? On le sait, c'est Isaac Newton, le physicien, qui en 1665 a fait des expériences. Alors, avant lui, on pensait que la lumière était absolument pure. Donc, elle ne contenait aucune couleur. C'est assez drôle de penser ça aujourd'hui. Mais Newton, lui, n'avait que 23 ans. Il était convaincu du contraire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enferme dans l'obscurité totale. Puis, il éclaire un prisme par un tout petit faisceau de lumière solaire. Et la lumière se décompose dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se suivent dans un ordre invariable. Notre œil peut les différencier, elle différencie les lumières colorées superposées parce que le prisme ne les dévie pas de la même façon, il les écarte. Alors Newton recommence, il renvoie cette lumière colorée dans un second prisme et elle ressort blanche. C'est-à-dire qu'il prouve que cette lumière blanche est bien une addition des lumières colorées. Qu'est-ce qui compte pour nous le plus important? C'est que les trois couleurs primaires sont à la base de tout. Et c'est ce qu'il faut retenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ces trois couleurs primaires, on peut obtenir toutes les couleurs de la nature. Si on les mélange deux à deux, elles vont nous donner les trois secondaires. On va peut-être rappeler un petit peu les choses parce qu'on ne les voit pas là.
Il nous manque les images.
Exactement. Si on prend le jaune et le bleu, couleur primaire, j'obtiens le vert. On est bien d'accord?
D'accord.
Si on prend le jaune et le rouge, couleur primaire toujours, on obtient l'orange. Jusqu'ici, ça va. Si on mélange le rouge et le bleu, on obtient le violet. Ça veut dire qu'avec les trois primaires, on peut fabriquer toutes les nuances à l'infini. Mais ça veut dire aussi que, inversement, toute couleur est forcément composée d'un peu de ces trois primaires. Prenons un exemple pour être plus concret. Prenons l'exemple des gris qui sont très à la mode en décoration. Est-ce qu'ils sont tout bêtement gris? Non, ils ne sont pas composés uniquement de noir et de blanc. Ce serait trop facile, puis ce serait un petit peu ennuyeux. Il y a certainement peut-être une pointe de bleu qui va leur donner un côté plus strict, plus solennel, plus habillé. Ou bien une pointe de brun, et à ce moment-là, il sera plus intime, plus chaud. Si on regarde les nuages, amusez-vous à regarder les nuages. Si vous êtes un jour cloîtré chez vous, vous pouvez toujours ouvrir la fenêtre. Demandez-vous comment est le gris de ces nuages. Quelle primaire vient les colorer? Est-ce qu'il est rouge? Est-ce qu'il est gris-rosé? Voire orangé quand le soleil se couche? Est-ce qu'il est ocré ou bleui? En fait, il n'est jamais vraiment, vraiment gris, voilà. Et ça, c'est une façon de voir la vie en couleur, c'est notre propos, et pas en noir et blanc. Alors, replaçons-nous dans l'hypothèse de la vie de tous les jours, du quotidien, et descendons du ciel de ces couleurs-lumière, et demandons-nous, basiquement, d'où vient la couleur d'un objet.
Qu'est-ce que ces objets qui nous entourent, ils ont comme couleur exactement? Oui, maintenant, voilà. Nous avons des doutes, après vous avoir écouté.
C'est-à-dire que... On peut se demander pourquoi l'objet, on le voit de telle ou telle couleur. Eh bien, suivant la composition moléculaire du corps que la lumière rencontre, la lumière peut être entièrement absorbée par lui, et dans ce cas, on ne voit que du noir, ou bien elle réfléchit en totalité et elle apparaît lumière blanche. En fait, le blanc et le noir ne sont pas vraiment des couleurs, mais plutôt de l'ombre et de la lumière. On ne voit de la couleur que quand un objet au corps opaque absorbe une petite partie de la lumière et en reflète une partie. C'est-à-dire que la couleur que l'œil perçoit est la lumière colorée qui est renvoyée par l'objet. Voilà. La lumière se réfléchit sur l'objet, en absorbe une partie, c'est-à-dire en soustrait une partie, et c'est celle-ci qui est renvoyée, que nous voyons.
Est-ce que ce n'est pas comparable, l'idée me vient comme ça, avec la musique, encore une fois? Je pense à Dutilleux, un grand musicien qui vient de mourir le 22 mai 2013, à l'âge de 97 ans. Et on raconte que, pour composer, un peu comme votre expérience de la soustraction des couleurs, eh bien, il partait tous les matins, très tôt, et il cheminait dans la montagne, dans la neige, jusqu'à un petit chalet, où il était tout seul, il allumait le feu. Et là, dans le silence épais de la neige, il commençait à composer. Et il écrivait des notes sur ses feuilles. Et les gens qui connaissent bien sa musique disent qu'ils entendent le silence à travers sa musique. C'est un peu ce que vous nous décrivez, c'est-à-dire que on entendrait aussi le blanc et le noir à travers les couleurs. Il y a un effet de contraste dans cette soustraction que vous nous décrivez qui est très intéressant et qui n'est pas particulier uniquement aux couleurs.
Oui, oui, oui. Effectivement, chaque chose existe par rapport à son contraire et elles interfèrent les unes par rapport aux autres, et voyons justement ce que veut dire mélanger ces couleurs matière, puisque là on est dans les couleurs matière, hein, encore une fois, on n'est pas dans les couleurs lumière. Quand on mélange ces couleurs matière, eh bien chaque fois on soustrait un peu de cette fameuse lumière. Plus on mélange, plus on obscurcit, et le mélange s'opacifie jusqu'au noir. Ça veut dire que mélanger les trois primaires matières donne le noir. Il faut se rappeler là qu'en mélangeant deux primaires, on obtient une couleur plus foncée. Et cette couleur plus foncée, c'est la complémentaire de la troisième primaire. Autrement dit, chaque primaire a sa complémentaire, qui est la somme des deux autres primaires. Ce qui veut dire aussi que si on mélange une primaire et sa fameuse complémentaire, qui elle-même est la somme des deux autres, on obtient aussi le noir, parce que ça revient à mélanger les trois primaires. Alors, en somme... Couleur matière, c'est assez amusant, et couleur lumière se comporte exactement à l'opposé. Leur mélange donne le noir ou le blanc. Les couleurs matière ne sont qu'une partie de la lumière, celle qui est renvoyée par l'objet, celle que nous voyons, grâce à la lumière, parce que malgré tout, il y a toujours un peu de lumière, hein, sinon on ne verrait rien, et ça voudrait dire qu'on est dans le noir total. Ça revient à dire que dans la nature, même dans les conditions d'ombre et de lumière maximale, il n'y a ni blanc, ni noir absolu. Un noir n'est jamais tout à fait noir. Il y a toujours une composante chromatique présente, un petit peu de lumière, donc une couleur résiduelle.
Ce que vous venez de dire me fait penser à le premier chapitre de la Genèse, où il y a un si beau passage qui décrit la création du monde. Dieu crée la lumière, il vit que cela était beau, et il appela cela « jour ». Et il appela les ténèbres nuit, et ce fut le premier jour. Cette opposition entre le noir et le blanc, entre la lumière et l'obscurité, ça a été l'objet du premier chapitre de la Genèse. Là aussi, c'est un symbole. Tout ce que vous venez de dire rejoint une histoire capitale.
Oui, j'aime assez ce parallèle. Et finalement, c'est l'histoire de la pièce qui n'est jamais tout à fait noire, tout à fait blanc. Il y a toujours le revers de la médaille. Et c'est dire que le jour n'existe que par rapport à la nuit. Et la lumière fait naître l'ombre. Et réciproquement, hein. Pendant la journée, si de l'ombre est projetée par les arbres et par les maisons, c'est parce qu'elles sont éclairées par le soleil. Sinon, il n'y a pas d'ombre. Voilà. Alors, prenons justement, là, on est en train de parler de la synthèse par soustraction, puisque comme on a dit, si on ajoute ces couleurs matière, on aboutit au noir. Donc, c'est ce qu'on appelle la synthèse par soustraction. Prenons quelques exemples. On peut se demander pourquoi vous avez souvent pu observer qu'en été, il fait plus chaud dans une voiture noire. Eh ben, là, on peut facilement comprendre qu'elle est noire parce que justement, ça veut dire qu'elle a absorbé la totalité de la lumière solaire, qui est chaude, on le sait bien. Donc, à l'intérieur, il fait beaucoup plus chaud dans une voiture noire. Une rose rouge, elle retient le jaune et le bleu et nous renvoie le rouge, puisqu'on la voit rouge. Hein. Mais comment il est ce rouge? Est-ce qu'il est vraiment rouge? Il n'y a pas deux roses du même rouge. C'est pas le rouge primaire. Si on regarde bien la rose rouge, elle peut nous apparaître orangée. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle nous renvoie aussi du jaune en plus du rouge. Donc ça va vers l'orangé. Ou bien elle peut nous apparaître violacée. Ça veut dire qu'elle nous renvoie aussi un petit peu de bleu qui, ajouté au rouge, va aller vers le violet. Voilà. Et un dernier exemple de la synthèse par soustraction qui est très pratique, c'est le phénomène des images successives. Alors ça, c'est une petite expérience que vous pouvez tenter, qui est assez drôle, que vous avez certainement tenté du reste, mais qu'on va expliquer. C'est la mémorisation d'une image par le nerf optique. Bon, vous regardez très fixement sur un mur ou sur une surface blanche, une forme rouge, bien rouge, hein, parce que c'est la couleur qui va fatiguer l'œil. Une forme, c'est-à-dire un carré, un triangle, ce que vous voulez, mais que ce soit une vraie forme. Pendant un certain temps, disons 20 secondes, et vous retirez tout d'un coup cette forme sans quitter des yeux le fond blanc. Mais alors, vous apercevez, à la place de cette forme, la même forme, c'est-à-dire la post-image, en vert. Elle n'est plus en rouge, elle est en vert. Pourquoi? Eh bien, on a fait trop travailler ce nerf optique en fixant longuement du rouge. Alors, il est très fatigué et il réclame du noir pour se reposer. Et comment va-t-il faire du noir à partir du rouge qu'il garde en mémorisation? Il va lui ajouter sa couleur complémentaire, le vert. Et le rouge additionné au vert vont donner le noir. Et là, il se repose.
Voilà des illusions qui tombent, en quelque sorte. On aurait pu croire que c'était magique, mais vous nous l'expliquez très bien, c'est scientifique.
Oui, alors, justement, c'est intéressant de connaître quelques données, parce que si on connaît le spectre lumineux un petit peu, et l'articulation des couleurs primaires et secondaires, on peut mieux comprendre que, suivant les circonstances, les couleurs ont des caractéristiques différentes et leur rapport entre elles va varier à chaque fois. Prenons des exemples qui veulent dire que les couleurs participent à donner la sensation de profondeur, de surface plus ou moins grande, accentuer les contrastes. Par exemple, la localisation, le rouge et le jaune semblent plus proches alors que le bleu et le vert sont plus éloignés. La surface, c'est-à-dire que les surfaces vertes ou bleues semblent plus vastes alors que les rouges et les jaunes semblent plus proches.
Et justement, ça me permet d'évoquer le logo du département de la Charente-Maritime, le logo 17, qui représente deux mouettes, vertes et bleues, sur un fond blanc. Et comme vous dites, ça évoque très bien l'infini, la présence de l'infini dans ce département, avec la mer, les horizons, la nature, les oiseaux. Et c'est vrai que si ces couleurs-là n'avaient pas été choisies, peut-être l'impression d'espace n'aurait pas été rendue de la même manière.
Oui, ben là on rejoint le côté ressenti. Pour moi, l'étude de la couleur, évidemment c'est passionnant, mais avant tout c'est la possibilité d'augmenter notre sensibilité visuelle, d'enrichir nos sensations et de découvrir les nuances. Hein. Quand on voit des feuilles vertes par exemple, on peut, si je vous demande quelle couleur est la feuille qui est dans le soleil et l'autre qui est dans l'ombre, vous allez me dire comme tout le monde, elle est plus sombre, elle est plus foncée.
Voilà.
Ben non, c'est que ce vert va aller vers le jaune s'il reçoit le soleil ou vers le bleu s'il est dans l'ombre.
Alors, en conclusion, vivre en couleur, c'est un plus, n'est-ce pas, Béatrice ?
Mais oui, parce que plutôt que, comme les Grecs, dire que la mer est pâle ou sombre ou qu'une feuille d'arbre est claire ou foncée, moi, je vous propose, avec vivre en couleur, de vivre vraiment en couleur plutôt qu'en noir et blanc. Parce que Van Gogh le dit lui-même, la couleur exprime quelque chose. Mais j'ajouterais aussi, elle nous dit quelque chose. Les couleurs sont les fenêtres de notre âme.